Bonjour et bienvenue dans les locaux de la librairie Un Point Un Trait, située maintenant au 6 bis, boulevard de la Liberté, à la place de l'ancien laboratoire d'analyse. Ici, toutes les analyses littéraires seront possibles pour ceux qui piconnent les livres. Aujourd'hui, à la librairie Un Point Un Trait et en partenariat avec Selmag, avec le CIST et Radio Lodev, nous accueillons, grâce à la nouvelle section de la Ligue des droits de l'homme de Bédarieux, la sociologue, écrivaine, militante, Pinard Sélec. Pinard Sélec, bonjour.
Bonjour.
En début d'année est sorti un livre d'entretien de Guillaume Gamblin, L'Insolente. Comment est née cette idée de dialogue écrit entre vous ?
Quand vous avez une histoire un peu animée, disons, tout de suite, vous devenez un proie. C'était des proies des journalistes, des réalisateurs, etc. Donc, parce qu'ils pensent que ça peut être une réussite facile de prendre cette histoire et vendre. Et donc, depuis 20 ans, parce que je vis cette histoire depuis 21 ans maintenant, et depuis 20 ans, j'étais en Turquie à l'époque, j'étais entourée de plein de journalistes et ou plein de réalisateurs qui voulaient « Alors, on veut faire quelque chose à partir de ta vie. » Et moi, je disais « Non, 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 je ne veux pas. » D'abord, je voulais continuer à vivre. Et j'étais jeune, je suis jeune aussi. C'est-à-dire, oui, je suis jeune et je ne veux pas raconter ma vie maintenant. Et comme si ça va finir dans quelques semaines. Et deuxièmement, comme cette horreur déjà me pèse beaucoup, je ne veux pas passer le temps de raconter qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, je disais toujours non, 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 non. Et comme je suis sociologue aussi, je suis très vigilante aussi avec des populations qui ont subi des violences ou qui sont exclues, etc. Parce que ça devient un objet de curiosité très, très facilement. Et moi, je disais que non, je suis un être humain, je veux continuer à vivre comme je vivais avant. Et donc, je vais créer, et si on veut discuter, on peut parler à partir de mes créations, mais je ne veux pas mettre en avant. Et après, quand je suis arrivée en France, donc ça s'est continué un peu, et même j'ai eu des propositions de « écrire ta biographie, on te paye tout de suite », donc c'est le marché de livres, vous savez. Et moi, je disais que non, je vais être la militante de la poésie, donc je ne veux pas entrer dans cette... ma vie, c'est pas un objet de marchandise. Mais notre rencontre avec Guillaume, mais plutôt avec le journal Silence, était très très important pour moi, parce que d'abord, vous allez voir si vous avez le temps de lire parce qu'ils sont arméniens, et L'Insolente aussi, ce qui a transformé ma vie, c'est des rencontres. Et quand des personnes se rencontrent, ils se racontent leur histoire. Et ça, m'a formé depuis mon enfance. C'est pas ce que j'ai lu, mais ce que j'ai écouté m'a beaucoup transformé. Et après, j'aime beaucoup les contes anatoliennes. J'adore les contes. Et dans ces contes, toujours quand les gens se rencontrent, quand un étranger arrive de loin, il s'assoit toujours devant une rivière, un truc comme ça, et il se présente, il raconte son histoire. Je fais ça, je viens de... Donc, quand les gens se rencontrent, ils se racontent leur histoire. Donc, comme je suis venue en France, je connais un peu, j'ai appris beaucoup de choses. Mais, je pourrais dialoguer. Donc, je pouvais faire un dialogue. Je suis devenue un peu plus ouverte, disons. Mais ma rencontre avec Silence, surtout, était historique dans mon trajectoire militante et humaine. Parce que quand vous venez, vous quittez votre espace et vous êtes dans un autre espace, vous n'avez pas de repères. Et vous cherchez où je peux continuer mes luttes, ou parce que tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas qui sont, tu ne peux pas distinguer. Parce que les slogans ne disent pas beaucoup de choses. Il faut les connaître. Et quand j'ai... D'abord, c'était le mouvement féministe en France. Ma rencontre était très, très déterminante. Mais après, un mouvement ne me suffit pas. Je suis en même temps libertaire, en même temps écologiste sociale. Donc, j'essaie de trouver les bonnes personnes, les bons réseaux. Donc... Quand je, c'est long la réponse, mais c'est important. Et quand je suis rencontrée, et silence, tout d'un coup, je me suis sentie chez moi. Alternative non-violence, mais surtout alternative écologie sociale. Et là, j'ai commencé à un peu collaborer avec Silence. J'étais à Strasbourg au début, après j'ai commencé à vivre un peu à Lyon et j'ai appris tout ce qui se passe en France. Notre-Dame-des-Landes, dans d'autres endroits, tous les alternatives, tous les projets inutiles à imposer et comment on peut lutter contre tout ça, etc. Et à travers le silence, je me suis trouvée aussi dans ces luttes. Donc c'était une sorte de guide pour moi, pour pouvoir commencer, pour pouvoir démarrer. Donc après, c'est devenu des amis et surtout leur façon d'être, leur façon de produire quelque chose, c'est vraiment ils pensent que comment tu fais, ça détermine ce que tu fais. Donc dans toutes les étapes, il y a le bonheur, voilà. Donc après, quand Silence Guillaume m'a demandé, nous voulons écrire une biographie politique de toi, ça m'a pas, je n'ai pas dit non. C'est-à-dire, j'ai dit, ça va être un dialogue, donc on va dialoguer, et moi je veux bien voir comment vous lisez cette histoire, parce que je vais raconter une histoire et vous allez réagir, donc ça va faire un dialogue. Et Guillaume m'a dit, je sens que Pnar, si on commence à cette dialogue, ça va élargir, ça va devenir une chorale.
Pour revenir justement sur l'insolente, le livre, dans la première partie, on perçoit la lecture qu'autour de vous, de votre famille, gravite beaucoup de monde, que la notion de groupe, de cercle, est assez importante. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette ambiance autour de votre mère, par exemple, avec ses clients et ses clientes de la pharmacie, autour de votre père, avec les personnages engagés en politique qu'il a côtoyé, et vous, forcément, dans votre vie, comment ça, est-ce que ça a apporté quelque chose dans votre regard sur le monde ?
Donc, j'avais beaucoup de chance, comme bon, je n'étais pas seule, parce que j'ai grandi dans une période où les mobilisations en Turquie étaient très, très fortes. Et donc, je suis née en 1971, donc comme vous voyez, j'ai à peu près 19 ans, et 71, et jusqu'au 80, et entre 60 et 80, il y avait une mobilisation sociale très, 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 très forte en Turquie. Les grèves générales qui duraient quelques semaines avec des revendications politiques, ça paralysait le pays, plein de mobilisations en même temps, les boycotts, etc., beaucoup d'organisations, et il y avait à l'époque l'Union soviétique, il y avait toute la guerre froide, et en général, ça crée une peur dans les États-Unis, dans plein de pays comme ça, que dans ce pays, il y a des mobilisations sociales à ce niveau-là. Donc, il y a eu beaucoup de coups d'État. 3 coups d'État dans 30 ans. Donc, chaque 10 ans, il y avait un coup d'État. Et donc, comme les coups d'État d'Amérique du Sud, par exemple. Et c'était organisé au niveau international. Mais jusqu'au troisième coup d'État, jusqu'au 80, ces coups d'État ne pouvaient pas empêcher la mobilisation. Donc, c'était une ambiance assez animée, beaucoup de lectures, beaucoup de l'art, beaucoup de musique, etc. aussi en même temps. Donc, par exemple, 68, vous savez, en France... Et dans 2 mois, les librairies, ils ont multiplié 4 fois leur vente dans 2 mois. Parce qu'il y avait la grève, parce qu'il y avait, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une période qui a duré 2 mois en France. en Turquie, ça durait un peu plus longtemps. Donc, dans cette période-là, moi, mon père et ma mère, ils étaient des personnes engagées. Et la maison, ce n'était pas une maison d'une famille nucléaire. Et on était deux sœurs, ma sœur un peu plus jeune que moi, et moi. Et je ne me souviens jamais à la maison, ce n'était pas une grande maison, c'était un appartement de 4 pièces. C'était pas grand, on était 4 personnes déjà. Et 3 pièces, et oui, 4 pièces, mais pas grand. Voilà, et je me souviens pas, à la maison, il y avait 5-6 personnes. C'est toujours 10, 11, 15, toujours des passages, mais tout le temps, tout le temps. Il y avait une cuisine, un peu normale, mais il y avait une table comme ça. Tout le temps on cuisinait, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps on cuisinait. Toujours on passait les recettes, etc. Et on chantait tout le temps. Quelquefois il y avait des bagarres, mais toujours politique. Et on discutait. Et ma sœur et moi, on était là, comme ça, nous tenons de la main, comme ça, on se promenait et on essayait de faire à manger. On essayait de parler, de discuter. Il y avait beaucoup de chansons, beaucoup de musique. Donc voilà, c'était une ambiance comme ça. Et juste en face de la maison, de l'appartement, il y avait une pharmacie de ma mère. Et ma mère était pharmacienne. Mais l'ancienne, c'est-à-dire aussi, elle avait un laboratoire derrière la pharmacie. À l'époque, il y avait une autorisation, une partie des pharmaciennes, elle pouvait produire des médicaments. Donc, elle avait un laboratoire, mais... Et c'était une sorcière plutôt. Même quand j'étais petite, j'avais un peu honte parce que quand on allait en voiture, elle s'arrêtait tout d'un coup dans la voie rapide, elle voyait les pissenlits, elle les ramassait. Donc c'était un peu une... La maison, c'était plein de herbes comme ça. Et quand il y a eu des clients qui venaient, qui demandaient quelque chose, elle disait non, ne prenez pas des médicaments, prenez ça, je vous fais une tisane de... Voilà. Et il y avait des fauteuils. Ça, je me souviens bien, et dans la pharmacie. Et plein de gens venaient à la pharmacie parce qu'elle était devenue un peu médecin de tout le monde. Parce qu'aussi, on avait des problèmes psychologiques, tout ça. J'ai mal ici, mais en effet... Donc, il y avait beaucoup de discussions. Et aussi, on discutait beaucoup de la politique avec ma mère. Et aussi, il y avait les mares de café. Et donc, ma mère adorait ça. Et il y avait beaucoup de gitanes qui vivaient autour du quartier. Et elle adorait ma mère parce qu'elle leur donnait des échantillons que les usines la donnent, etc. Et elle venait, elle regardait les mares du café, plein de personnes qui arrivaient. Et moi, j'ai appris de regarder les mares du café dans la pharmacie. J'avais une maîtresse, j'étais apprentie d'une gitane comme ça. Mais c'était dans la pharmacie. Mais tout le monde disait que quand je sors de la pharmacie, ça nous fait du bien. Donc, pas besoin de prendre un médicament directement, mais l'ambiance était bien. Et quand après je lis Murray Bookchin, c'est un philosophe écologiste social, il dit, vous pouvez trouver sur YouTube, il a des conférences. Et il y a sous-titre en français, il dit que quand vous sortez de la maison, et si vous voulez voir les amis, si vous voulez socialiser, et où vous allez aller? Surtout dans les grandes villes, vous imaginez, il n'y a même pas des bancs publics maintenant. Où vous allez aller? Vous allez trouver vos amis où? Il faut que vous consommez. Vous allez à un bar, il faut que vous donnez de l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'espace maintenant, c'est de moins en moins. Tu y vas pour rencontrer les amis, c'est un endroit de passage où on s'assoit. Parce qu'il faut toujours, dans les villes, il faut toujours marcher, il faut toujours avancer, il faut toujours circulation. Mais pas s'arrêter, rester où on parle. Donc la pharmacie, c'est un endroit comme ça. Donc tout ça, ça continue jusqu'au 1980, le troisième coup d'État de l'État en Turquie, coup d'État militaire, fasciste. Et ça a changé notre vie parce qu'ils ont venu prendre mon père, qui est resté 5 ans en prison. Il y avait 1 million de prisonniers politiques à cette époque-là. Même avoir le livre de Aragon ou Paul Éluard, c'était un délit. Donc ce n'était pas seulement... c'était comme un peu le livre de George Orwell, c'est qu'en 1984. C'était vraiment une époque de peur, de paralysie. Et ils ont changé beaucoup de choses très vite dans les cultures. Il y a eu plein de télévisions qui sont ouvertes, la néolibéralisation très vite, etc. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Et moi, j'ai grandi après devant les prisons. Et notre maison s'est transformée dans un lieu de résistance. C'était toujours un lieu de résistance, mais avec plus de joie, plus de musique, disons. Et maintenant, comment il faut solidaire avec les prisonniers politiques, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que tu as entendu où il est, ils l'ont emmené où. Donc il y avait des petites réunions comme ça, mais plus discrètes. Voilà. Et la pharmacie aussi, il est devenu un endroit de discussion. Non, ce dictateur, ben, ma mère, elle était, mon père, il est plus paisible.
Posé.
Et ma mère, elle discute, donc elle disait que non, c'est pas possible, tu ne peux pas dire là, c'est un dictateur. Parce que tous les soirs, le dictateur, c'est comme Pinochet, turc. Donc, il s'appelle Evran et il crie à la télévision, mais tout le temps. Et je parle dans l'insolente. J'ai vu comment autour de moi, à l'école, etc., les gens ont commencé à l'accepter et, parce qu'il répète. Et comment il est devenu une normalité. Il criait, toutes les démocrates étaient des communistes. Toutes les personnes qui parlent des choses normales étaient des communistes. Toutes les communistes étaient des Arméniens. Toutes les Arméniennes étaient des terroristes. Donc, il avait trois mots, mais il disait tout le temps. Par exemple, il va parler d'autre chose, il utilisait ces trois mots. Arménie, ça veut dire Arménien, communiste, terroriste. Arménie, communiste, mais tout le temps. Moi, j'ouvre la télévision, il dit Arménie. Donc, même les professeurs à l'école, ils étaient un peu caricature de ça. Donc, j'ai vécu à la maison. On discutait différemment. Quand le dictateur sortait, ma mère et les autres parlaient, ils les critiquaient, donc je savais que c'était mensonge. Et j'allais à l'école. Avant, il y avait la terreur, avant, il y avait ça. Donc tout le monde a commencé un peu à changer le discours. Donc j'ai vécu cette contrainte. Voilà.
Très tôt, vous vous tournez vers les autres. Et dans le livre, il est décrit que la façon dont vous rencontrez les enfants de rue, des rues, je crois que c'est vers 16 ans, d'après si j'ai bien saisi la période. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous décidez de vous rapprocher d'eux et plus tard passer des nuits avec eux? Vous avez, il y a une description dans l'insolente où vous avez quand même une proximité très forte avec un certain Chino aussi.
Est-ce mais que il faut lire ça pour voilà. Si je le compte maintenant.
Non, justement, mais parlez un petit peu de cette ambiance et surtout la façon dont vous avez ensuite créé cet atelier des artistes de rue. Mmh. Je trouve que c'est une expérience assez étonnante.
Pour moi, je crois que la plus grande expérience de ma vie, c'est ça. Ce qui m'a transformée vraiment très, très, très profondément, c'est cette expérience de rue. Je peux vous dire que quand vous ouvrez les portes aux autres personnes, quand vous vous ouvrez vraiment, vous recevez, il y a quelque chose de très, très fort. Et comme j'ai grandi dans un endroit assez sociable, et je n'avais pas des portes, je crois qu'ils ont oublié de construire les portes. Donc, il n'y avait pas de portes, ou ils étaient cassés, je ne sais pas. Donc, quand on rencontrait, et aussi à l'époque, à Istanbul, même à Istanbul, parce qu'Istanbul, maintenant, c'est une ville un peu très difficile à vivre. C'est à peu près 20 millions de personnes vivent à Istanbul. Et la circulation, plein de choses, et plein d'habitations partout. Mais à l'époque, on passait la journée dans les rues avec ma sœur. On venait le soir à la maison, avant l'école. C'est-à-dire avant l'école, quand on avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, on était tout le temps dehors. Donc, on avait plein d'amis et on ne savait pas quand on se rencontrait, tu es l'enfant de qui, tu as quel métier ou tu es quel niveau. Donc, il n'y avait pas ces questions-là. Tu rencontres et tu demandes est-ce que tu aimes la rose, est-ce que tu aimes le soleil, Tu poses d'autres questions. Tu ne te poses pas présenter son niveau de vie. Tu poses d'autres. Quel est ton rêve? Je ne sais pas. Donc, c'était une période un peu comme ça. Et donc, quand j'ai un peu grandi, quand j'étais au lycée, je ne suis pas allée vers les enfants de rue. Je ne suis pas allée pour les protéger, etc. C'était parce que je les ai rencontrés. J'avais une petite. Comment dire? Défaut. J'ai commencé à fumer un peu tôt. Parce que à l'école, les filles sympas qui faisaient des choses chouettes fumaient. Donc, c'était une sorte de socialisation. Donc, j'ai commencé à fumer 14 ans, 13 ans, plutôt 13 ans. Et je n'avais pas de cigarette et j'avais un problème. Donc, je marchais, j'étais sortie de l'école. Et j'ai vu les enfants qui étaient dans la rue, ils fumaient, je leur ai demandé une cigarette. Donc, c'est commencé comme ça. Mais parce que je ne pensais pas qu'il faut parler avec qui, il faut pas parler avec qui, etc. Et ça créait une amitié très, très forte que j'écris. Et très lentement. Pas tout de suite. Mais après, je leur ai raconté mon problème. Après, ils sont venus à l'école, ils m'ont demandé. Et cette amitié s'est développée dans 2 ans, 3 ans. On se voyait toujours, mais la confiance, c'est, comment dire, devenue concrète dans 3 ans, etc. Et à partir de là, je commençais à vivre avec eux. Mais c'était une grande amitié. Et ils m'ont découvert un autre monde. Ils détestaient les journalistes. Ils détestaient les gens qui viennent, les curieux qui viennent commencer à comprendre comment ils vivaient, etc. Parce qu'ils avaient des rituels aussi, ils avaient une forme de justice aussi entre eux, etc. Et moi, j'ai commencé à la faculté de sociologie. Et tout d'un coup, mes collègues, mes camarades, mes profs me disaient, mais tout le monde, parce que tout le monde savait que j'étais dans les rues. Ils venaient toujours. Quand je faisais perdre mon sac, ça me revenait. Donc, j'étais pas médiatique, mais à Istanbul, on savait que j'étais beaucoup dans les rues. Mes professeurs me disaient, pourquoi tu fais pas une recherche? Pourquoi tu n'écris pas un article? Et j'ai pas fait. Je n'ai jamais fait un travail sur ces gens-là. Mais une fois, une de mes professeurs m'a dit, mais c'est très important de montrer les dynamiques de résistance, comment ils survivent, ça peut être intéressant pour les autres. Il m'a convaincue. Donc je vais un jour à mes amis, j'ai dit, si je fais un petit travail comme ça, et ils m'ont dit, à qui va servir ce travail? Qui va utiliser ce travail? Ça va servir à nous? Tu vas faire quoi, ça? Et j'ai pas fait. Et ils m'ont dit, mais si tu écris un conte, si tu écris un roman, tu peux. Parce que ça ne leur dérange pas. Parce qu'ils aiment bien de cette façon-là. Donc, je n'ai rien fait. Mais en vivant beaucoup avec eux, j'ai remarqué plein d'associations qui venaient les aider ou d'autres choses, mais c'était très caritative et qui ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait vraiment dans les rues. Et donc, nous avons décidé ensemble de créer un espace de création et de rencontre dans les rues. Parce que à partir de ma présence dans les rues et de ne pas bouger, c'est-à-dire de ne pas passer, aller, etc., tu fais des rencontres super. Donc, j'ai connu beaucoup de prostituées, beaucoup de transsexuels, beaucoup de différents groupes de gitanes qui sont à Istanbul. Donc, j'ai commencé à voir toutes les relations qui se passent dans les rues. Et là, nous avions un réseau très important et nous avons squatté un bâtiment près de Taksim. Et le rêve a commencé comme ça. Et nous avons créé un espace de création, la musique, le théâtre, plein, plein, plein de choses en même temps. Et personne ne pouvait nous toucher parce que tout le monde venait, tous les voisins, etc. Et c'était extraordinaire. Ça commençait 2000, 2000, je ne sais pas, non, pas 2000, 1900. Ça continuait 6 ans. Donc, 2000, 93, chose comme ça, je pense. 93 jusqu'à 98, le jour de mon arrestation, parce que je faisais un travail sur les Kurdes. Et quand la police m'a arrêté, ils sont venus casser cet atelier. Et toutes les personnes qui étaient dans cet atelier sont fuies. Parce que c'était en général des gens qui étaient vraiment dans des fragilités sur plein de choses. Et on trouvait beaucoup de morts dans les rues aussi, des enfants, comme en Brésil, un peu des enfants de rue. Donc, ils ne voulaient pas comme ça. Et moi, j'ai envoyé tout de suite un message de la prison, ne venez pas me voir, et disparaissez. Ils sont tous venus, ils ne m'ont pas écouté, ils sont tous venus me voir, mais tous. Et mes procès sont devenus... L'État n'attendait pas ça, l'État turc n'attendait pas. Il pensait que peut-être les féministes ou les intellectuels, les universitaires, vont les soutenir. Mais toutes ces... il y avait plein de filles qui venaient avec leur jarretière dans le procès. Et donc, j'ai les personnes des SDF qui sont déchirées, ou les femmes voilées, plein de différentes personnes. Tout ce que j'ai touché, mais des centaines de personnes qui venaient toujours ensemble comme ça. Et le procès, il est devenu médiatique grâce à eux un peu. Parce que personne n'était habitué à cette forme de soutien, une personne qui est accusée du terrorisme, etc. Donc, voilà. Et dans le livre, il y a une petite photo. Pour finir avec la rue, et ça m'a sortie de la prison. Donc je suis très très maigre parce que j'avais fait grève de faim 28 jours. Et il y avait beaucoup de personnes qui m'attendaient dehors, devant la prison. Et les enfants de rue, c'est eux qui m'ont entourée les premières. Donc c'est une amitié qui s'est développée très lente, mais on a vécu beaucoup, on a traversé beaucoup de choses et on a toujours notre lien.
Et pour revenir en fait sur le titre de L'Insolente, si je vous dis... insolente et froussard.
Froussard, c'est quoi?
Qu'est-ce que cela évoque pour vous?
Froussard, c'est quoi?
Peureux.
Ah, d'accord. Oui.
Branding.
Alors, je raconte cette histoire dans mon livre parce qu'ils sont arméniennes. Parce qu'ils sont arméniennes. Je ne parle pas de insolente, le mot même. Mais par exemple, Valérie Manteau, dans son livre Sillon, elle parle que Grant m'appelait l'insolente. Mais quand j'étais à l'école, comme je vous ai dit, c'était juste après le coup d'État, et j'avais décidé d'aller à une école française. Donc c'est pour cela que je suis maintenant en France, parce que je parle français. Et cette école française était une école où les Arméniens envoyaient beaucoup leurs enfants, parce qu'ils ont resté très très peu en Turquie. Ils envoyaient très peu leurs enfants. Ils envoyaient pas dans les écoles turques beaucoup, parce que, comme je vous ai dit, le dictateur parlait des Arméniens, Arménie comme une insulte, et le mot Arménie, Arménien ça veut dire, c'est comme une insulte. Quand je dis maintenant Arménie, c'est comme je dis une insulte, il est devenu comme ça dans le langage. Et dans les livres d'éducation nationale, il y avait beaucoup de d'éducation nationale. Il y avait beaucoup de analyses, beaucoup de choses qui disaient que les ennemis extérieurs des Turcs sont tout le monde. Tout le monde est jaloux des Turcs, donc tous les voisins, etc. Et les ennemis intérieurs sont des Arméniens, Arménie. Donc et vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, c'était difficile pour ces Arméniens. Et il y a eu quelques... même si c'était une école française, mais les cours de turc, de d'histoire, de géographie, etc., c'était éduqué par les enseignants turcs, donc, qui étaient très, très nationalistes, comme des caricatures du dictateur. Donc, ils criaient. Et moi, j'étais toujours comme ça. Mon père était en prison, je collais des affiches partout, parce que les poésies aussi étaient interdites. Donc, je collais des affiches de Nazım Hikmet, je mettais des poésies. Et mes amis arméniens, elles me disaient, oui, tu as raison, tu es bien fait, etc. Mais elles ne bougeaient jamais. Et moi, je disais, moi, je suis très, 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 très courageuse. Je suis super. Je discute avec le prof, les profs. Mais les Arméniens sont des gens bien, mais un peu peureux. Voilà. Et avec le temps, avec les rencontres, tout ça, tout ça, tout ça, et j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire être arménien en Turquie. Ce livre, parce qu'ils sont arméniens, c'est un récit de déconstruction. Comment je me suis déconstruit après. Parce que après, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire être arménien en Turquie. Et j'ai compris que moi, quand même, j'appartiens à une identité dominante. Même si mon père est en prison, tout ça, mais il y avait un respect à nous. C'était pas une insulte de parler de nous. Et les Turcs se croyaient la maîtresse de la maison. La propriétaire de la maison. C'est pas le cas parce que les Arméniens sont plus anciens que les Turcs là-bas. Mais on a l'impression, quand on répète quelque chose plus que 40 fois, tu crois. Donc, moi, j'étais un peu. Les autres étaient étrangers. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait un travail directement sur moi-même. Et quand on s'est rencontrés un jour avec Hrant Dink, c'est le journaliste arménien. Un peu qui a un symbolique dans l'histoire militante en Turquie. Un homme de paix, un homme de démocratie, un homme de liberté. C'est un personnage très, très particulier. Et dans ces conditions-là, il a créé un journal turc et arménien. Il a réuni plusieurs personnes parce que le mot génocide, c'était un tabou. Mais sans dire le mot génocide, il a commencé à faire réfléchir beaucoup de personnes sur cette question sur l'histoire. Il disait grande catastrophe, etc. Donc petit à petit, petit à petit. Et il était partout. Et cette personne, un jour, quand je suis sortie de la prison en 2002, il est venu. C'était un grand monsieur. Il avait tenu mes mains. Il a dit, maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. J'ai dit, d'accord. C'était commencé comme ça. Depuis, après, je me suis impliquée aussi à Agos. On a fait plein de choses ensemble. Agos, c'est le nom du journal. Ça veut dire sillon. Et après, je lui ai raconté qu'est-ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vécu dans le lycée. Je disais que moi, je pensais que les Arméniens étaient peureux, etc. Et il me disait toujours insolente, mais quelquefois, on faisait des blagues. Et il me critiquait beaucoup, Grant, parce que quand j'étais sortie de la prison, j'ai organisé des manifestations, etc. Il me disait qu'il ne faut pas aller très vite, il faut aller lentement, il faut mesurer les choses, etc. Moi, je lui disais, peureux arménien. Il me disait, gâté, fille turque, chose comme ça. Donc, mais c'était entre nous. Et Grant, avant de son assassinat, parce qu'il est allé plus loin, il a commencé à parler du génocide, il a commencé à mettre en cause beaucoup de choses, discours de l'État. Ils ont décidé de le tuer. Et à ce temps-là, il m'a appelé il y a une semaine avant à peu près. Pınar, tu vas très vite, tu organises plein de choses en même temps, il faut que tu sois. J'ai dit, peureux arménienne. Et ils me disent, mais ça ne sent pas bien, Pınar, s'il te plaît. Et une semaine après, il était tué. Et là, c'est la maison d'édition qui a mis le nom.
Que Valérie Manteau, aussi dans le prix Renaudot, dans son roman Le Sillon, qui est effectivement le terme Agos, aborde les questions et les
Oui, elle a dit
relations.
qu'elle est allée en Turquie en lisant parce qu'ils sont arméniennes. Après, il faut voir qu'est-ce qui se passe.
Il est difficile d'évoquer votre parcours sans parler de votre passage, effectivement, dans les prisons turques, qui sont relatées dans le livre. Alors, à votre convenance, vous pouvez nous expliquer soit ce parcours-là, soit le parcours. Votre fuite et enfin la naturalisation française.
J'avais de la chance en prison parce que à l'époque, il y avait les prisons turques n'étaient pas encore européanisées. C'est-à-dire il y avait des dortoirs, des grands dortoirs, et il y avait à peu près 45 000 prisonniers politiques, et on était dans les grands dortoirs ensemble. Donc ça, c'est pas mal. À cause de mes recherches, comme je n'ai pas dit les noms des personnes que j'ai interviewées, parce que ça, on n'a pas parlé. Et on m'a arrêté un jour. Je faisais un travail sur le mouvement kurde et j'avais fait des entretiens, à peu près une cinquantaine, mais à partir d'une fourchette de personnes, pas beaucoup, mais 50 est quand même un peu important, qui représente des femmes, qui représente l'âge. Donc j'ai fait plein de catégories. Mais ils m'ont dit, il ne faut pas que tu dises non, non. Il ne faut pas que tu parles de nous. Donc j'ai écrit des noms faux. Mais j'ai utilisé le téléphone, je n'ai pas fait attention, etc. Et la police a remarqué que je faisais cette recherche. Donc, c'était après mon master à l'université. Donc, ils m'ont appelé. Et non, ils m'ont, quand je sortais de l'atelier, ils m'ont embarqué. Et ils m'ont dit que maintenant, il faut que tu nous donnes les noms. Tu ne veux pas publier cette recherche. Parce qu'à cette époque, ils ne voulaient pas qu'une Turque... Maintenant, ça se fait, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Une Turque parle de la question kurde. C'était une époque où ils voulaient amener le leader du PKK en Turquie. C'est 98, c'était une époque où ils voulaient un peu un climat très militariste, très nationaliste, etc. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils préparaient, donc je voulais faire ma recherche avec des questions, etc. Même, c'était une recherche critique par rapport au mouvement kurde, sur l'hiérarchie, sur le mode de fonctionnement, etc. Donc, c'était assez critique aussi, mais je disais qu'il faut discuter. Et donc, ils m'ont dit, donne-nous les noms et tu peux partir. Et donc, je n'ai pas donné les noms. Donc, ça commençait comme ça. Et la torture, il est devenu très fort. Et j'ai réussi à ne pas donner les noms. Et quand on m'a amené à la prison, c'était extraordinairement beau parce qu'il y avait plein de femmes qui m'ont accueilli. Moi, je ne pouvais pas bouger. Même je n'ai pas pu bouger, mais parce que tout mon dos était cassé. C'était vraiment mal. Et j'avais des chocs électriques, mes cheveux étaient tombés. C'était vraiment mal. Et eux, elles, personne ne me posait des questions. Elle me caressait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle m'en lavait. Parce que l'autre, c'était la police, c'était urine. L'odeur de l'urine, je me souviens bien. Et là, il y avait le savon et les caresses. Et que ça. Donc, j'ai passé quelques jours avec leurs caresses, les petits massages, etc. Donc, après... j'ai vécu une période très importante aussi dans ma vie, parce que dans les difficultés, c'était des gens aussi intelligents qui réfléchissent, qui contestent, etc. Donc, on partageait beaucoup de choses. On parlait, on racontait qu'est-ce que tu as vécu, moi j'ai vécu ça. Donc, on n'a pas vécu toute seule. Et là, j'ai compris que je suis un petit point dans le grand tableau. Je ne suis pas... Donc, je commençais à politiser. Je ne suis pas entrée dans mon histoire... J'ai vu que je fais partie de l'histoire, de la grande histoire. Donc, ça aide à résister aussi. Et aussi, très peu après, il y aurait d'autres personnes qui sont venues, mais qui étaient violées, surtout les femmes kurdes, les violaient particulièrement. Donc, il y avait très jeunes, très âgés. Elle criait, donc moi j'ai dit comment il faut les faire les rire, on essayait d'inventer quelque chose pour les faire du bien, etc. Donc notre temps passait de s'occuper de nous. On se massait tout le temps, par exemple on mangeait ou on discutait, et notre main c'était automatique. On se massait parce qu'on savait que notre dos ne va pas. Et quand j'étais sortie de la prison, je me souviens quand... je suis avec les autres, je commençais à penser et c'était pas toujours bien mené. Donc les gens étaient étonnés, surtout si c'est des hommes. Ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Donc c'était comme ça. Mais en prison, j'ai passé 2 ans et demi dans cette ambiance-là, mais il y avait beaucoup, beaucoup de violence. Après, c'est fini avec une violence terrible. Ils ont décidé de nous amener dans les prisons... haute sécurité avec les cellules à l'européen. Ils ont construit ça parce qu'ils ont vu que c'est dangereux de laisser les personnes ensemble comme ça. Donc, après, juste avant ma libération, ils ont fait des grandes opérations parce que les prisonniers résistaient. Il y a eu des grèves de faim, tout ça, tout ça. Et ils voulaient nous amener dans les prisons aux cellules. Et nous, on n'attendait pas cette violence-là. Ils sont arrivés Et dans ma prison, il y avait à peu près 48 personnes qui sont mortes. Ils ont brûlé partout. Et c'était une violence terrible. Et je parle dans l'insolente de cette violence. Mais en même temps, il y avait beaucoup, beaucoup de solidarité. Tout le monde s'occupait de l'un de l'autre, etc. Mais une des grandes traumas que j'ai vécu, c'était cette violence-là. Après, ils nous ont amenés dans une autre prison, comme Foucault, hôpital, école, prison, et dans une autre prison. Et là, je ne suis pas restée beaucoup, beaucoup de temps. Juste après, je suis libérée. Mais cette période de libération était assez... comme je montrais ma photo, je suis toute maigre et accueillie par les enfants de rue. Donc, j'avais laissé mes camarades, que j'avais vécu une horreur ensemble avec elles. Et quand on a entendu à la télévision, parce qu'on mettait à la télévision qu'on me libérait, comme c'était un procès très médiatique, et on s'échangeait plein de choses tout d'un coup. Ils m'ont dit, les gardiens, ils ont dit, poudre au soleil, on va t'amener, tout le monde t'attend dehors. Ils ne m'ont pas dit avant. Donc, on a commencé à échanger tous nos habits, sauf notre culotte, je pense, même notre soutien gauche. Tout le monde s'est échangé parce qu'on ne savait pas quoi faire dans des conditions comme ça. Et quand tu prends, tu parles comme ça, tu as une sens de responsabilité très, très fort aussi. Et voilà. Donc, après les prisons, mon mode de militantisme a beaucoup, beaucoup changé, plus développé, disons.
Vous reçoit aussi comme écrivain.
Oui.
Aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir quel est le point de départ de l'écriture. Comment s'est imposé le désir, le besoin d'écrire. Et vous avez dit aussi tout à l'heure que la poésie avait joué un rôle. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Alors, est-ce que vous avez commencé à écrire des poèmes et puis ensuite d'autres types de livres? Voilà, enfin, c'est un peu ce cheminement de l'écriture sur lequel je voudrais avoir quelques informations.
Merci pour la question. J'avais de la chance, encore, je vais dire, parce que j'ai grandi dans une ambiance où il y avait des poètes, où il y avait des chanteurs, où il y avait toujours des textes qui se promenaient. Donc... mais ce n'est pas obligé que je sois. Ma soeur n'a pas fait ça, mais quand même, je me suis baignée là-dedans. Et j'ai commencé à écrire, je ne sais pas comment, très très tôt. J'écrivais des poésies, et avec mon père, parce que lui, il nous racontait toujours des contes, et on construisait des contes ensemble. Et quand il est tombé en prison, c'est moi qui l'ai fait à ma soeur, de construire des contes. Et je suis devenue conteuse au début. Dans ma relation avec les enfants de rue, c'est à travers les contes qu'ils m'appelaient. Je voyageais partout pour raconter des contes. Donc, j'étais aussi... Et j'inventais les contes. Mon père, c'était mon complice aussi. Donc, je lui racontais tout. Quand il est en prison, c'est difficile. Donc, j'ai commencé à écrire des lettres. Mais... j'écrivais tout, par exemple, même si j'étais petite à l'époque, mais il y a un garçon qui me plaisait à l'école, etc. Je lui écrivais, ou je faisais bagarre avec, je ne sais pas, ma sœur, je lui écrivais. Je ne sais pas avec ma sœur, mais avec les voisins, je ne sais pas, je lui écrivais. Et je suis allée à le voir, donc tu ne le touches pas, c'est très loin, tu le cries comme ça. Il me dit que tu sais que les soldats lisent ce que tu dis, donc il faut que tu écrives dans un peu caché. Donc après, je lui écrivais tous les jours. C'était comme mon journal intime. Donc j'ai commencé à écrire qu'il va comprendre, mais les soldats ne vont pas comprendre. C'était un exercice qui a duré 5 ans quand même. Et j'écrivais des poèmes. Et après 3-4 semaines, moi, quand je suis allée, parce qu'on voyait tous les prisonniers de l'autre côté, ils parlaient avec ses familles, et ils venaient me dire, mais c'est génial ce que tu écris, ton père nous lit, tu écris des poésies, il faut continuer, etc. L'homme a répété la poésie que... Parce que c'était des grands intellectuels aussi, ceux qui étaient en prison. Donc, on allait voir les prisonniers, mais c'était plutôt... On allait, qui nous donne des perspectives aussi. Pas pour moi, parce que j'étais petite, mais il me disait que c'est génial ce que tu écris. Donc, à cette époque, je disais que j'ai un public maintenant, qui me lise. Donc, c'était les prisonniers, les premiers, qui a duré 5 ans. Mais juste après, j'ai écrit beaucoup de comment c'est pas quand j'étais au lycée et après à l'université, des nouvelles et des poésies. Et je publiais dans les journaux, dans les revues, etc. Et je ne pensais pas faire un livre parce que je faisais beaucoup de choses et je ne voulais les idées des situationnistes m'influençaient beaucoup. C'est-à-dire pourquoi je ne voulais pas devenir un écrivain. Je ne veux pas non plus maintenant et parce que c'est une chance de pouvoir qui te prend. Et les partages des poésies, les partages de l'art, à mon avis, ça doit être un peu plus vagabonde ou plus libre. Et voilà, donc j'avais ça. Et après, j'ai commencé à la sociologie. Donc j'ai commencé à écrire des essais, des articles différents avec un autre langage. Donc maintenant, j'écris le roman. Maintenant, mon deuxième roman, il est publié en Turquie. J'ai plein de livres de contes en Turquie. Donc, une est traduite, mais il n'est pas là, mais j'écris des contes. Et à mon avis, l'un, comment dire, en France, en général, on veut te cloisonner dans une forme de savoir ou expression. Moi, je m'en fous de ça. Et même à la Renaissance, à l'époque de Renaissance, les intellectuels de cette époque, ils étaient mathématiciens, poètes, plein de choses. Donc moi, je dis que moi, j'ai besoin de réfléchir, comprendre quelque chose, analyser, donc je le fais. Après, c'est quand je vais m'exprimer. Si j'étais, par exemple, musicien, je voulais bien être, je pouvais chanter, mais ça ne veut pas dire que l'un n'est pas une identité. Être sociologue n'est pas une identité. Un écrivain n'est pas une identité. Tu écris, tu chantes, tu fais d'autres choses. On est complexe, voilà. J'essaie d'être fin.
Voilà, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce livre L'Insolente de Guillaume Gamelin, comme la difficulté du déracinement, la vie en prison, la justice, la torture, les menaces. Mais aussi, on découvre de façon plus légère les raisons de votre installation aujourd'hui à Nice. Ce livre permet aussi, à travers la vie de Pinar Selek, de comprendre un peu mieux le contexte politique turc. À la lecture de L'Insolente, même si votre vie aujourd'hui encore est suspendue à la décision de la justice turque, avec les risques que cela comporte, on découvre l'importance du lien humain, l'importance que la liberté donne à l'engagement, et aussi et surtout la richesse qu'apportent les autres. Merci Pinar Selek pour ce moment d'échange à la librairie.
Merci à vous.
À l'ODEV, merci au CIST, le Centre de l'imaginaire scientifique et technique, qui est notre partenaire et bien plus encore. Merci à Trait d'Union, l'association de soutien à la librairie depuis de nombreuses années. Merci à Selmag pour son accompagnement. Et merci à Radio L'ODEV pour sa collaboration et particulièrement à Anne. Je tiens aussi à remercier Philippe Laville, délégué national de la Ligue des droits de l'homme, et Christiane Boissiaud-Dedieu à la présidence de la section de la Ligue des droits de l'homme de Bédarieux. Et merci encore à Pinar Selek pour son enthousiasme.
Je crois qu'ici, ça va devenir, parce que c'est nouveau, ça va devenir comme le pharmacien de Momain, non?